Bonjour à chacune, à chacun. Vous pouvez reprendre avec moi ce chapitre du livre des Actes des Apôtres où effectivement nous avançons dans l'histoire de la propagation de la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle que Dieu est venu dans le monde pour sauver des pécheurs, dont je suis le premier, dira l'apôtre Paul. Et cette bonne nouvelle, elle n'est pas réservée à une élite, elle n'est pas réservée à quelques-uns, elle n'est pas réservée à une catégorie sociale, elle n'est pas réservée, comme on l'a rappelé tout à l'heure, à certains peuples, pas à d'autres, aux hommes ou aux femmes. Elle est pour tous. C'est formidable. Et Paul va rappeler dans son discours à Athènes que tous les hommes sont issus d'un seul sang, tous faits à l'image de Dieu, tous ces créatures qu'il chérit, précieux pour Dieu. Je suis précieux pour Dieu. Vous êtes précieux pour Dieu. Chacun est précieux pour Dieu. Et il a donné sa propre vie. Il s'est fait homme, il est venu et il s'est offert pour qu'on puisse être réconciliés. Alors, nous sommes dans ce chapitre 19, et nous voilà arrivés dans la ville d'Éphèse. Paul va un petit peu dans ces grandes villes de l'époque, ces grands centres. Il était juste avant à Corinthe. Aujourd'hui, nous, on ne connaît Corinthe que par ses raisins. Les raisins de Corinthe. Mais croyez-moi, à l'époque, c'était pas pour les raisins que c'était connu, puisque dans le monde grec, corinthiser voulait dire mener une vie de débauche épouvantable, une vie sexuelle dépravée, avec de l'alcool à foison. Pourquoi ? Parce que le temple de Corinthe était par excellence le temple de la prostitution. Il y avait 1000 prêtresses sacrées qui étaient simplement des prostituées sacrées et qui faisaient tourner le business de Corinthe. Alors, quand on allait en pèlerinage à Corinthe, vous imaginez le genre de pèlerinage qu'on y faisait. Et on va retrouver tous ces travers dans l'épître adressée plus tard, quelques années plus tard, aux Corinthiens, parce que effectivement, comme on baigne dans la culture, comme on est né dedans, et ben on a parfois du mal à se détacher de la manière dont on a été éduqué, de ce qui nous, on en est imprégné, et c'est pas facile de rompre avec ces choses qui nous abîment. Et nous voilà maintenant à Éphèse, en Turquie. À Éphèse, en Turquie, ça nous dit rien, à nous. Et là, on voit un épisode avec ce temple dédié à Diane, ou Artémis. Et si on se replonge un petit peu dans le contexte, on rappelle que c'est les grands centres, c'est Éphèse avec le temple de Diane, c'est aujourd'hui ce que pourrait représenter la Mecque pour les musulmans. Puisque le temple de Diane fait partie des sept merveilles du monde. On a tous entendu parler de ces sept merveilles du monde antique. Et on peut réfléchir aujourd'hui quelles seraient les sept merveilles de notre monde moderne. Les sept endroits à visiter. Qu'est-ce qu'il faut avoir vu dans sa vie, quoi ? Je sais pas, vous pourriez dire Statue de la Liberté, pas c'est à voir, la Tour Eiffel, on n'a pas vu la Tour Eiffel, on a raté sa vie. Je blague. Les pyramides, d'ailleurs, je me demande si elles ne faisaient pas partie des sept merveilles du monde antique. Les pyramides, donc, d'Égypte. Et voilà, on pense le Taj Mahal. Voilà, vous pensez à ces endroits. Alors, dans les endroits visités, il y a Petra aussi, effectivement. Hein. Et puis, à l'époque, il y avait les jardins suspendus de Babylone qui n'existent plus. Et ce temple de Diane était classé numéro 4 dans les sept merveilles du monde antique. C'était pas n'importe quel temple. C'était un haut lieu de pèlerinage, un haut lieu religieux, mais pas seulement, on va y venir. Et voilà que Paul arrive pour parler de ce qui a transformé, de celui qui a transformé sa vie, Jésus. Et un verset que j'aimerais mettre en évidence dans ce chapitre, le verset peut-être clé pour ce matin, dans ce chapitre 19, c'est le verset 18. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Jésus est venu pour sauver des pécheurs. Ah, on dit, ouais, mais pas si pécheur que ça, moi. À Corinthe, il ne se trouvait pas spécialement pécheur. Tout le monde était comme ça, tout le monde faisait pareil. C'était la culture. C'était leur identité. Mais c'était un aspect abîmé par le péché. Un aspect de leur identité, bien abîmé. Et nous voyons dans notre texte, ici, deux aspects à Éphèse, où Dieu a besoin de rencontrer les Éphésiens dans leur culture pour les délivrer de ce qui les emprisonne. C'est quoi le péché ? C'est manquer la cible. Nous sommes faits à l'image de Dieu pour le refléter en toute beauté, en toute perfection, en toute harmonie. Et puis le péché, c'est quand on tire à côté. Et quand on tire à côté, ça fait du dégât. On s'abîme soi-même et on abîme les autres. Ici, la première des choses qui est mentionnée à Éphèse, c'est l'occultisme. Un haut lieu de l'occultisme. Des arts magiques. Jeter des sorts, etc. Alors nous, avec notre esprit un petit peu rationnel occidental, des fois on sourit un petit peu. Il y a ceux qui y croient, il y a ceux qui y croient pas. Aux diseuses de bonne aventure, aux tireurs de feu, aux guérisseurs. Et pourtant, quand on creuse un petit peu dans nos campagnes ici en France, combien les gens se tournent vers des puissances, ils ignorent l'origine de ces puissances. Mais comme ça marche, il se tourne vers ça. Et puis si nous allons ailleurs, hein, en Afrique, par exemple, on ne rigole pas des sorts. Nous, ça nous fait rire, hein, pas eux, parce que ces puissances existent, qu'elles sont bien réelles. Et en tout cas, nous avons ici à Éphèse tout ce... cette ambiance, l'astrologie, connaître son avenir, la superstition, les petits actes qu'on fait pour se porter chance, etc., et qui sont construits sur tout un mode occulte, parfois fantaisiste, mais avec la plupart du temps une origine et une racine bien réel. Il y a des charlatans, mais il n'y a pas que des charlatans. Seulement, ces puissances ne viennent pas de Dieu. Et comme nous dit la Bible, Satan se déguise en ange de lumière. Alors bien sûr, il y a l'occultisme dans sa, dans son objectif un petit peu sombre, on appelle ça la magie noire, etc., on jette des sorts, etc. Et puis la magie blanche, tiens, le côté un peu plus lumineux, mais ça va te faire du bien, etc. Et déguisé en ange de lumière, au travers de ces puissances dont on ne connaît pas vraiment les origines, mais dont la Bible nous parle et nous demande de nous tenir en garde et de ne pas y toucher, il y a Satan. J'ai eu l'occasion, moi, pendant près de 14 ans, de travailler tous les jours avec une dame qui avait ces pouvoirs-là. Faire le bien, mais ça la détruisait. Et elle vivait dans la crainte. Et au fond d'elle, elle me disait, je crois qu'il y a des esprits qui veulent que je sois leur canal, et ça me fait peur. C'était le cas. Alors peut-être... ça nous touche ou ça nous touche pas, je ne sais pas. En tout cas, voilà un exemple de choses dont Dieu veut délivrer, parce que parfois, c'est vraiment inscrit dans notre identité, dans notre culture, dans notre éducation familiale. On dit, oui, mais ça fait partie de ma vie. Oui, mais c'est une chose, c'est une partie de ta vie qui t'abîme et qui te détruit. Donc, le Seigneur veut te libérer. Amen. Et à Éphèse, c'était conséquent. On voit qu'ils vont brûler pour 50 000 pièces de livres magiques. Une pièce correspondait à une journée de salaire d'un ouvrier agricole. Et si l'on fait le calcul, nous avons ici pour 2 700 000 euros de livres. Belle bibliothèque quand même, hein ? Ça représente le salaire de 5 personnes au SMIC sur la totalité de leur carrière. Pas mal, hein ? Mais ils vont rompre. Ils vont rompre parce que le Seigneur va les libérer, parce que le Seigneur a des choses meilleures que tout ce que peut procurer ces soi-disant, ces puissances occultes, mais qui sont... Je te donne d'un côté, mais je te reprends beaucoup plus dans ton âme et dans ta vie et dans ta santé et dans ta paix intérieure. Je te donne d'un côté, mais je te reprends bien plus de l'autre. Affaire avec Satan, on est toujours les perdants. Voilà un aspect à Éphèse. Mais il y a un second aspect que nous trouvons avec un fameux Démétrius, des versets 23 à la fin, c'est le business, c'est l'argent. Voilà le président de la guilde des orfèvres, Démétrius, qui se rend compte que la prédication de Paul détourne un petit peu les gens des faux dieux, des idoles, de la mythologie grecque, de Diane, de tout ce que d'Apollon. Donc Diane, c'était la sœur d'Apollon, c'était les enfants de Zeus, etc. Bref. Tout ça, évidemment, quand on rencontre le vrai Dieu qui n'est pas fait de main d'homme, il dit oui, il dit que Dieu, les dieux ne sont pas faits de main d'homme. Et nous avions souligné comment Dieu, dans chaque civilisation, dans chaque histoire, a laissé sa trace. Vous partez en Inde, dans les origines de l'hindouisme, il y a à la base la croyance dans le Dieu créateur tout-puissant dont on ne fait pas d'image et qui est saint parfait. Vous allez chez les Incas, c'est la même chose. Vous allez chez les Égyptiens, c'est la même chose. Chez les Chinois, ça c'est très, très connu. Hein. Longtemps, même le... L'empereur chinois était vraiment le gardien de cette connaissance du Dieu très haut dont on ne fait pas d'image, qu'on ne représente pas, et qui est le Saint, le Parfait, au-dessus de tout, de tout le reste. Et on retrouve cette trace de ce Dieu créateur dans toutes les civilisations et à la racine de toutes religions qui ensuite ont dévié et ont rajouté des idoles et des faux dieux. Alors voilà, il n'est pas étonnant que lorsque Paul passe à travers l'Asie, puis l'Europe, où qu'il aille, comment se fait-il que l'Évangile trouve un écho ? Mais parce que Dieu a préparé le monde à l'Évangile, il a laissé sa trace dans les cœurs. Parce que tous les hommes sont issus d'un seul sang, faits à la ressemblance de ce Dieu saint, parfait, créateur. Nous avons donc cette guilde des orfèvres qui dit « Ouh là là !» Là, les gens sont en train d'être convaincus d'autre chose et c'est pas bon pour le business. Et voilà qu'à Éphèse, l'argent, c'était quelque chose. Pourquoi ? Parce que le fameux temple de Diane, quatrième merveille du monde, est aussi considéré comme la toute première banque de l'histoire de l'humanité. Parce que dans le temple de Jean, et avec un intérêt. C'est le principe de la banque. On vous garde l'argent, on le fait travailler, on vous le rend quand vous voulez, avec un intérêt. Et donc, le temple n'était pas un business qu'il y avait autour de l'orfèvrerie, hein, en argent, en or, Eiffel, qu'on vous vend. Bon, eux, ils repartent de miniature, mais comme c'est pas de l'acier, quoi. Hein. Tout ça, ça se paye. Et on peut penser à tous les lieux que vous voulez. Il y a toujours tout un business autour. Oui ou non ? Oui. Tout un business, et surtout, faut pas toucher ce business parce que... Aïe. Ça chamboule le portefeuille et ça chamboule là où ça fait mal. Et donc, à Éphèse, au-delà de tout ce business qu'il y a dans tout lieu religieux, qu'il y a dans tout lieu de tourisme, il y avait aussi en place tout ce système bancaire. Et quand on touche à la banque... L'argent, le dieu argent. Vous souvenez que dans l'épître aux Corinthiens, Paul va reprendre ce qui touche la culture corinthienne à propos de la fornication à tout va. Eh bien, pour Éphèse, lorsqu'il laisse son bras droit, Timothée, le jeune Timothée, comme pasteur à Éphèse, c'est quasiment le seul passage de tout le Nouveau Testament où il nous est parlé de l'argent. Et ce n'est pas étonnant que ce soit à Éphèse qu'on parle du problème de l'argent. Prenez avec moi 1 Timothée. En 1 Timothée, au chapitre 6, un des rares passages du Nouveau Testament à parler des richesses et de l'attachement à l'argent et de cette attitude qui cherche le gain. Et on cherche le profit dans différents domaines, y compris le domaine religieux d'ailleurs. Si on peut faire du fric avec la religion, ben pourquoi pas ? Et c'est ce que Paul dit aux Éphésiens ici, il dit « des hommes corrompus croyant que la piété est une source de gain ». Il dit « c'est en effet une grande source de gain, de profit, que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde ». Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Ou pour les matérialistes que nous sommes, ça c'est dur ça. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de toutes sortes de maux. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Vous prenez 10 films au hasard. Je mets ma main à couper, ou presque, que la moitié de ces films touchent à l'argent. Surtout dans les films policiers. Hein, dès qu'il y a... Vous avez certainement en tête ces films où il y a un meurtre, et puis on essaye d'élucider, et puis on remonte. Et puis à la fin, il y a forcément un intérêt financier d'une grande société, ou de l'État, ou de ceci, ou de cela. Et on démonte le truc, et derrière, il est question toujours de millions de dollars ou de milliards de dollars à la clé. Oui ou non ? Vous connaissez ce genre de film ? Mais oui, parce que l'argent, ça fait tourner le monde. Surtout en Occident. Et on est prêt à beaucoup de choses pour l'argent. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Éphèse, première banque de l'histoire, ça nous parle à notre système à nous. Hein. Il n'est donc pas étonnant que nous retrouvions adressé pour les Éphésiens au travers de Timothée cet avertissement sur l'amour de l'argent, sur la recherche du profit. Toujours dans le même chapitre, à la fin du chapitre 6, hein, Timothée 6, bien sûr, il y a des riches. Dieu n'est pas contre les riches. Et il y avait à Éphèse des gens riches. Et voici ce qu'il leur dit. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, verset 17, et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Et j'aime bien la fin, c'est le verset 20, c'est un petit clin d'œil au système bancaire. Il dit à Timothée, « Ô Timothée, garde le dépôt, garde le bon dépôt. Hein. Te trompe pas de coffre-fort. » Jésus avait dit, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Il est où ton trésor ? Ton coffre-fort ? C'est quoi ce que tu protèges plus que tout dans ton système de vie, dans ton mode de vie ? C'est quoi qui t'est si cher que tu ne veux pas qu'on y touche ? Et tu y mets ton énergie, tu y mets ton temps, tu y mets ton intelligence. Alors, si nous revenons en acte 19, on va élargir un petit peu tout ça. On a vu que nous sommes créés à l'image de Dieu et Dieu vient nous rencontrer dans notre particularité. Il vient nous rencontrer dans notre culture, il vient nous rencontrer dans notre éducation, dans les endroits où ça nous a tordus. Chez les Corinthiens, ils étaient plutôt tordus du côté de l'alcoolisme et du sexe. Et Dieu va les rencontrer sur ce terrain-là, parce qu'il y a du boulot. À Éphèse, il les rencontre plutôt dans leur identité, dans leur culture, dans leur éducation d'occultisme et de fric. Deux domaines qui les touchent particulièrement. c'est presque dans leur gène. Et Dieu met le doigt là où ça nous dérange, mais là où ça nous abîme. Et en même temps, ça nous abîme, et en même temps, ça nous dérange qu'on nous l'enlève. Il n'est donc pas étonnant, au verset 9, de trouver quelques-uns restés endurcis et incrédules. Non, je ne veux pas qu'on vienne toucher à mon trésor qui est là. Ça, c'est mon mode de vie, ça, c'est mon truc. Faut pas y toucher. Tu dis que ça m'abîme, j'en sais rien. De toute façon, j'ai pas envie d'y réfléchir. Et puis, c'est ton point de vue. Et le problème, c'est que c'est pas le point de vue des uns ou des autres. C'est le point de vue de notre concepteur, de celui qui nous a créés. Et celui qui nous a créés, c'est pourquoi il nous a créés. Il sait ce qui est l'harmonie ou pas l'harmonie, ce qui construit ou ce qui détruit. Et il nous aime. Et parce qu'il nous aime, il ne veut pas qu'on continue de s'abîmer. Alors, il vient nous rencontrer. Il vient nous rencontrer sur le terrain où on s'abîme le plus. Alors, peut-être pour l'un, c'est le sexe. Peut-être pour l'autre, c'est l'argent. Peut-être pour le troisième, effectivement, c'est l'astrologie, tout ce qui est un petit peu occulte. Mais peut-être c'est le terrain de mon égoïsme. Peut-être c'est ma colère, mon caractère colérique. D'ailleurs, mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père étaient colériques comme ça, hein. C'est de famille, hein. C'est générationnel, c'est dans nos gènes. Chez nous, on a le sang chaud. Peut-être c'est sur le terrain de la malhonnêteté que celui qui dérobait ne dérobe plus. Ça, il le dira aux Éphésiens aussi. Donc, oh, forcément, hein. Je ne vais pas dire que les banquiers sont tous des voleurs, hein, mais dès qu'il y a de l'argent, eh ben, on a envie de... L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Donc, si on peut s'en procurer de façon un peu malhonnête et illégale, pourquoi pas ? L'honnêteté. Quel est le terrain sur lequel Dieu veut vous rencontrer, veut me rencontrer ? Quel est ce trésor que je conserve là ? Et où Jésus dit, mais là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Hein. Et ce domaine-là, je veux te rencontrer pour le changer dans ta vie. Non, n'y touche pas. Ben si, tu t'abîmes, t'abîmes d'autres. Et t'as besoin d'être réconcilié avec moi. C'est ça là, l'évangile. C'est cette bonne nouvelle de la délivrance. Délivré, là où nous avons besoin d'être délivrés. Amen. Et Paul, le premier, il n'est pas en train de visiter ces gens en disant « Mais c'est incroyable !» Mais vous êtes des grands fous, vous êtes des grands pécheurs. Alors les Corinthiens, n'en parlons pas, les Éphésiens, plein d'argent et tout ça. Mais c'est... Vous savez, la chose qu'il va dire aux Éphésiens au travers de Timothée, c'est 1 Timothée, dès le chapitre 1, je l'ai cité tout à l'heure, parce que Paul aussi a fait cette expérience que Dieu le rencontre là où lui était abîmé. Lui, c'était pas l'argent. C'était pas le pouvoir, c'était pas l'orgueil, c'était pas le sexe. Vous voyez, on a chacun peut-être notre domaine de prédilection. Ce truc que je veux pas lâcher, c'est chasse gardée. C'est mon caractère, c'est mon livre, je suis comme ça. Et oh. Eh bien, Paul. C'était la violence. Une violence même qu'il déguisait sous couvert religieux. Et nous connaissons bien ce phénomène aujourd'hui de la violence religieuse qui prend prétexte de la religion. Aujourd'hui, il y en a qui prennent prétexte des gilets jaunes pour exprimer leur violence. Qu'importe, tout prétexte est bon. Quand on veut casser, détruire, cogner un peu du flic ou d'autres, on saisit les opportunités là où elles se trouvent. Tout simplement. Parce que il y a une racine qui est là et qui est on aime bien. Et les casseurs qu'on voit aujourd'hui à la télé sont des gens, il y a une adrénaline qui est là, ils vivent une belle journée. Vous voyez, c'est comme quand les enfants vont à Disney, et ils ont dit « Ah, c'était chouette cette journée de Disney », ben là, ça se régale, il y a une manifestation, on va en profiter. Oh, on a passé une journée, c'était comme ça. Hein. Et ça a pu s'exprimer, hein, ça a pu... Voilà, il y en a, c'est ce mode-là. Eh bien, Dieu veut les rencontrer là-dedans, comme il a rencontré Paul. Et Paul dit, chapitre 1, 1 Timothée 1, verset 13, il dit « J'étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde, parce que j'agissais dans l'ignorance, dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé. » Avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Écoutez ce verset 15 que j'ai cité, c'est formidable. Il dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Paul, il dit pas, moi je suis le plus petit, vous voyez, dans la gradation des hommes pécheurs, je suis plutôt un mec bien. Il dit non. Si je me regarde bien en face, le fond de mon cœur, faut bien reconnaître qu'il y avait une violence qui demandait à s'exprimer. Il dit, je suis le premier des pécheurs. À mes propres yeux, je suis le premier des pécheurs. Peut-être vous allez prendre un Corinthien qui s'est tourné vers Jésus-Christ et qui jette sur sa vie passée, et on voyait à Corinthe en particulier tous les cas d'inceste, etc., qu'il y avait. Il jette un regard sur sa vie, il dit, bah oui, je suis le premier des pécheurs. Peut-être vous allez trouver à Éphèse un gars qui était bien impliqué dans le système bancaire et qui dit, m'en parlez pas, je sais combien de personnes on a éliminées parce que c'était des gêneurs. Je suis le premier des pécheurs. Et voilà pourquoi, si nous revenons à Acte 19, à notre verset clé, chacun d'entre nous, étant une créature faite à l'image de Dieu, mais éloignée, coupée, nous avons besoin d'avoir cette démarche. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Paul, il dit, moi, j'étais un homme violent. L'autre, il dit, moi, j'étais un financier véreux. Moi, j'étais juste un égoïste, mais c'était suffisant pour être le premier des pécheurs. L'autre qui dit, moi, j'étais bouffi d'orgueil. Fier de moi-même. Je suis le plus beau, je suis le plus fort et je suis le meilleur. Quand on est le plus beau, le plus fort et le meilleur, on méprise les autres et on les écrase un petit peu. Et puis, la parole de Dieu est là pour nous rencontrer exactement là où on en a besoin. Alors, où est-ce que Dieu veut vous rencontrer ce matin ? Où est-ce qu'il veut entrer dans votre vie et dire, écoute, ce domaine-là, tu sais, c'est ton trésor, je sais, mais c'est ton identité, c'est ton caractère, c'est ton éducation. On ne te changera jamais et t'en es fier peut-être, regarde la réalité, elle n'est pas si lumineuse que ça. Ose te regarder dans le miroir que je te tends. Regarde la vérité en face. Pour être libéré, parce que si tu ne la regardes pas en face, bah, tu resteras emprisonné dans ce qui, dans ces chaînes que tu caresses comme étant un trésor, mais qui ne le sont pas. Peut-être des chaînes dorées, mais des chaînes quand même. Et le Seigneur veut faire tomber ces chaînes et veut nous libérer. Quelles sont les chaînes que le Seigneur veut faire tomber dans votre vie, dans la mienne? Quel est le domaine où on a mis l'écriteau interdiction d'entrée? Vous savez, comme les ados, ils mettent dans leurs portes des panneaux là, pas rentrer quoi. On est un peu des ados peut-être avec Dieu, hein. On met le panneau. Le livre de l'Apocalypse, Jésus parle et dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et qui m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Voilà, on va pouvoir se mettre à table ensemble, on va pouvoir dialoguer, on va pouvoir vivre un moment où on peut s'asseoir ensemble, parler, communiquer, dialoguer, plutôt qu'une porte qui reste fermée face à celui qui nous a créés, qui nous aime et qui veut nous rencontrer là où ça nous dérange. Prions. Merci Seigneur pour ces exemples historiques, mais dans lesquels on peut se retrouver chacun de manière personnelle. Tu nous connais, tu veux nous rencontrer dans notre histoire, dans notre passé, dans notre présent, dans nos spécificités. Merci de nous aider à comprendre ton amour et ta démarche pour nous rencontrer, non pas pour nous condamner, nous fracasser, nous humilier, mais pour nous délivrer de nos chaînes et que nous puissions ainsi venir et confesser, déclarer, te déclarer ce qu'on est, ce qu'on a fait, ces domaines où finalement nous ne sommes pas bien en phase, où nous ne sommes pas dans l'harmonie, où la note qui est jouée sonne faux dans notre existence. Et tu veux l'ajuster, tu veux l'accorder avec toi. Alors que nous puissions te laisser examiner nos cœurs avec franchise, avec honnêteté, pour dire oui, tu es celui qui m'a créé, tu es ce Dieu qui vient vers moi et je veux te laisser entrer dans mon cœur pour me rencontrer là où en fait j'en ai besoin. Merci pour cela. Incline nos cœurs à le faire plutôt que de résister bêtement, de nous endurcir et de rester ainsi esclaves et prisonniers de ce qui au fond est notre maître et nous a vaincus. Merci parce que tu es celui qui délivre et nous voulons te remercier et t'ouvrir nos vies pour cela. Et c'est en ton nom que nous prions. Amen. Que chacun puisse réfléchir et prier. Oui Seigneur, délivre-moi dans ce domaine. Continue d'œuvrer dans ma vie. Dans ce domaine, j'en ai besoin.